Il est clair qu'en décrivant le processus méditatif et en essayant de l'expliquer, nous utilisons des termes qui, pour la plupart, nécessiteraient d'être expliqués. Qu'est-ce qu'on entend dans ce contexte particulier par ces termes? Et ce soir, je voudrais parler d'un terme particulier, qui est le terme d'intimité, et explorer ce qu'il veut dire, ce que intimité veut dire dans le cas particulier des pensées, mais tout d'abord l'aborder d'une manière générale. Donc intimité certainement marque une proximité. Dans le Satipatthana Sutra, comme je l'ai déjà mentionné, la deuxième partie, après Sati en pali qui semble pouvoir être comprise de différentes manières, veut dire en tibétain l'attention ou la présence placée de manière proche. C'est ce que ce terme veut dire dans le Satipatthana Sutra. Donc proche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce terme, si vous voulez, qui est ici rendu par intimité, mais cette proximité est telle qu'il n'y a plus de distance. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, cette intimité ou cette proximité telle qu'il n'y a plus de distance dans l'expérience? Et on peut dire que c'est exactement là que se trouve la richesse de la méditation. Non pas d'être attentif à quelque chose, d'observer quelque chose. Ça, on pourrait dire que beaucoup d'activités nécessitent cette attention pour faire n'importe quelle tâche. De la couture, par exemple, ceci nécessite une certaine attention. Alors même si on était attentif à différentes choses qui se passaient en soi, c'est très différent quand il y a cette intimité, c'est-à-dire cette unité dans l'expérience elle-même. Et ça, c'est vraiment la dimension, si vous voulez, de présence ou du terme sati en pali. Alors le Satipatthana Sutra qu'on utilise beaucoup pour décrire le processus méditatif, décrit un peu, fait l'inventaire de toutes les expériences qui peuvent surgir, des types d'expériences qui peuvent surgir dans la méditation. Mais d'une certaine manière, je ne trouve pas qu'il est tellement précis pour essayer de donner la saveur de ce que veut dire l'intimité de l'expérience. Il reste peu précis à ce propos. Donc c'est dans d'autres sutras qu'on trouvera peut-être l'expression de cette intimité, si vous voulez, décrite de manière qui exprime mieux peut-être, qui nous font mieux sentir ce que ça veut dire. Donc dans un sutra, il est dit que quelqu'un s'approche du Bouddha pour lui demander quelle est l'essence de son enseignement, de sa pratique. Et le contexte fait que cette personne est venue de loin. Le Bouddha est sur le point d'aller mendier, donc de prendre ses aumônes. Donc il n'a pas beaucoup de temps et il demande à ce brahmane d'attendre qu'il revienne de sa tournée d'aumônes. Mais le brahmane est persistant et il dit non. On ne sait jamais ce que réserve la vie, donc il pousse pour que le Bouddha réponde sur le champ. Donc ce contexte est intéressant parce que ça ne laisse que peu de temps au Bouddha pour répondre, donc peu de mots. Et ça donne des réponses extrêmement concises. Donc le Bouddha lui répond à ce brahmane qui veut vraiment savoir ce qui est l'essentiel, non pas de sa doctrine, on voit bien là la question qu'il pose, mais de sa pratique, du chemin si vous voulez. Et le Bouddha répond, il dit, dans la vision, il n'y a que la vision, dans l'audition, il n'y a que l'audition, dans la gustation, il n'y a que la gustation, dans l'olfaction, que l'olfaction, dans la sensation corporelle, il n'y a que la sensation corporelle, dans l'intellection, il n'y a que l'intellection. Il dit, quand, dans la vision, il n'y aura que la vision pour toi, quand dans l'audition, il n'y aura que l'audition, passe les cinq sens, et il dit quand dans l'intellection, il n'y aura que l'intellection, donc dans la pensée, que la pensée, tu ne seras plus ici, quand tu ne seras plus ni ici, ni là, ceci est la fin de la souffrance. Donc voilà le résumé de la pratique. Et le sutra dit que ce brahmane atteint l'éveil en comprenant ce dont il s'agit, en pouvant le pratiquer, presque immédiatement. Donc on a ici une description très succincte de ce que veut dire intimité et de ce que veut dire présence méditative. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quand dans la vision il n'y a que la vision, dans l'audition que l'audition, ou dans l'intellection que l'intellection, il dit quand tu ne seras plus ni ici ni là. Ici, quand il dit tu, il parle du moi, si vous voulez, ni ici, c'est-à-dire dans le corps, ni là, dans l'esprit, dans les divers aspects de la conscience, si vous voulez, ni dans les émotions, ni dans la perception, ni dans la pensée, ni dans les sensations affectives. Donc à ce moment-là, dans cette intimité-là, ce Brahman noir a réalisé qu'il ne se trouve ni ici, ni là, réalise l'absence de moi, si vous voulez, de par l'intimité. Non pas parce qu'il l'a cherché, non pas parce qu'il a cherché à se libérer de la notion du moi, mais par l'intimité même dans l'expérience. À ce moment-là, il verra dans ses expériences même, clairement, qu'il n'est ni dans l'audition, ni dans la vision, qu'il n'est ni dans l'intellection. Et à ce moment-là, c'est la fin de la souffrance. Donc dans ces termes ici, c'est-à-dire l'atteinte de la libération du nirvana. Donc ici, description de ce qu'est l'intimité, aussi de ce que cette intimité ouvre comme sagesse et comme liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand dans l'audition, si on prend l'exemple de l'audition, quand dans l'audition il n'y a que l'audition? Qu'est-ce que ce « que » marque, si vous voulez? Donc cette restriction ici enlève évidemment le sens d'un « moi », « j'entends », et enlève aussi le terme de ce « quelque chose » que j'entendrai. Si j'entends le son du gong, par exemple, il y a là une construction, une élaboration, il y a le « moi », et quelque chose que j'entends, je crée un concept, gong. Ce son lui-même ne dit pas « je suis un gong, je suis un gong, je suis un gong ». Il faut un concept qui nous dit « ça c'est le gong ». Donc dans l'expérience elle-même, si on revient à l'innocence de l'expérience, l'expérience première, il y a juste ce son, il y a juste la conscience de ce son, et immédiatement la conscience crée un « je » qui entend le gong. Et c'est le « que » enlève ce « je » et ce concept de l'objet. Dans la vision, il n'y a que la vision de la même manière. Il y a « je » qui voit quelque chose. Et dans cette élaboration « je vois ceci », « je vois la salle de méditation », « je vois des gens », etc. Il y a ce « je » et cette construction qui est faite, qui est en excès dans l'expérience, ou qui vient dans un second terme, qui est l'élaboration de l'expérience. Et on peut explorer ceci dans la vision, dans la méditation, en marchant évidemment. On pourrait le faire dans la méditation assise, en ouvrant les yeux. Pas explorer la vision les yeux fermés évidemment, mais on est assez rapidement mis face à une incohérence dans notre expérience. Ici, par exemple, chacun d'entre nous a une vision différente de la salle de méditation. Il y a toute une partie que nous ne voyons pas, et une autre partie que nous voyons, et si nous tournons la tête, alors il y a une autre partie que nous ne voyons pas. Chaque moment de la vision est différente. Et d'ailleurs, si on prenait des photos, on les mettait les unes à côté des autres, on ne saurait pas, si moi je prends une photo ici et ensuite dans ce sens-là, rien ne me dit que c'est la même salle. Il faut que j'explique, ah mais ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Autrement, la photo elle-même, à moins d'essayer de faire une sorte d'inventaire. Donc, et chaque fois que nous entrons dans cette salle de méditation, nous avons l'impression de voir la même salle. Mais si nous nous référons uniquement à l'expérience, alors les expériences sont très différentes. Quand on entre ici, on passe la porte, on a une vision spécifique, et puis à chaque pas elle change, et puis quand vous êtes assis à la place où vous êtes, elle change encore. Donc dans une collection très, très riche de sens, impressions différentes, nous créons le concept salle de méditation, ou bien salle, il n'y a pas besoin d'être aussi élaboré, simplement la salle, et ceci donne l'impression d'une constance. Donc finalement ce que nous voyons, c'est ce que nous croyons, ce que nous connaissons, c'est la salle. Mais si on en restait uniquement à l'expérience visuelle, on se rendrait compte à ce moment-là qu'elle change d'instant en instant, et cette expérience visuelle est une expérience qui se passe dans notre conscience. La vision se passe dans notre conscience et non pas dans la salle. Or, quand nous entrons, nous avons l'impression que ce qui nous concerne, c'est ce qui est devant nous, autour de nous. Donc on peut très bien explorer dans la marche ou à d'autres moments le fait que si on en reste dans la simplicité de la vision, il n'y a que la vision, avant qu'on crée la notion d'un sujet « je » et de ce qui est vu, à ce moment-là, on est dans cette intimité, dans la vision, il n'y a que la vision, et ceci, si vous voulez, révèle la conscience à elle-même, de même que dans l'audition ou dans toute expérience. dans cette expérience de la vision que la vision, on a vraiment l'impression que ce n'est pas la salle qu'on connaît, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ce cas-là, mais c'est la conscience qui se connaît elle-même dans cette expérience. De même que dans l'audition, c'est la conscience qui se connaît elle-même dans cette expérience. Qui est consciente d'elle-même, si vous voulez, connaître est un peu trop compliqué, si vous voulez. Connaître pourrait impliquer le fait qu'on nomme, qu'on amène un concept, alors simplement le fait de cette conscience. Et ça, c'est l'intimité. Donc on peut aussi explorer ça dans le goût. C'est intéressant lorsqu'on mange quelque chose. Alors on a cette élaboration, je mange ceci, cet aliment, celui-là, donc c'est assez compliqué. Mais si on essaie d'être le plus proche possible de l'expérience du goût, cette expérience évidemment qu'on a beaucoup de peine à mettre en mots. Le langage du goût est assez pauvre. Le langage des formes et des couleurs est assez riche pour nous. On a toutes ces nuances de vert, on mélange, mais le goût, on est vite limité. Mais si on reste dans l'expérience elle-même, alors il y a juste cette expérience-là qui n'a ni forme, ni couleur, qui n'est pas tangible, qui est cette expérience qu'on pourrait appeler sucrée, salée ou acide, etc. Et qui, dans le goût, il n'y a que le goût, si vous voulez, dans cette expérience-là, c'est comme si le goût s'éprouvait lui-même, c'est une manière de parler, il n'y a que la conscience est consciente d'elle-même dans cette expérience du goût, avant qu'on crée un sujet, on crée un objet, un aliment ici qui serait goûté, si on imagine une pomme, c'est juste ce goût. Après on peut dire « je mange une pomme ». Mais avant ceci, il n'y a que cette expérience dont on ne peut pas rendre compte verbalement. C'est pas le même domaine. Toutes les nuances de goût que peut avoir une pomme, évidemment. Donc c'est aussi une exploration très intéressante d'essayer de sentir quelle est cette expérience dans l'intimité simplement du goût. Donc toute expérience, toute conscience est consciente de quelque chose. À chaque instant, il y a conscience de quelque chose. Mais dans cette intimité, il n'y a pas conscience et le quelque chose ailleurs. Conscience de quelque chose, c'est une expérience unitaire, si vous voulez. Sans que pour autant ce soit confondu. Si il y a le goût, un goût sucré par exemple, celui d'une pomme, eh bien à ce moment-là, il y a cette expérience dans la gustation. Il n'y a que la gustation, par exemple. Mais je ne vais pas croire que la conscience est sucrée. Ni quand j'entends un son que la conscience, je ne sais pas, elle est ce timbre particulier. Et pourtant, elles sont liées. La conscience et ce timbre particulier, dans l'audition, sont complètement liées. On ne peut pas dire ici est le son et ici est la conscience. Ils sont complètement liés, mais on ne les confond pas. Essayez de prendre un exemple pour ceci. Si on imagine un petit ruisseau et dans la forêt, donc il y a le reflet des arbres qu'on peut voir dans l'eau, eh bien on ne peut pas dire ici est l'eau, ici est le reflet. Le reflet et l'eau sont complètement mélangés. Pourtant, on ne va pas prendre le ruisseau pour un arbre, ni l'arbre pour un ruisseau. Il n'y a pas de confusion ici. Et cependant, la réflexion et l'eau sont complètement mêlées. Donc de la même manière, la conscience, consciente de quelque chose, elle apparaît sous l'aspect de ce qu'elle perçoit. On ne peut pas les séparer, mais on ne les confond pas. La conscience est quelque chose de particulier, c'est cette qualité de pouvoir être conscient de différentes choses. Si la conscience était ce timbre particulier, alors ça voudrait dire qu'on aurait toujours ce timbre particulier. Ou si la conscience était cette couleur particulière que je perçois, ça veut dire que toute perception aurait cette couleur. Or, c'est pas le cas. Dans un instant, même si je perçois cette partie de la salle ici et cette partie de la salle à un autre instant, qui n'ont rien de semblable, si la conscience était cette perception-là, à ce moment-là, dans chacune de mes perceptions, j'aurai la salle plus quelque chose d'autre, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est, l'apparence change constamment, hein, mais pourtant dans l'expérience, ils sont mêlés. C'est pour ça que dans l'audition, il n'y a que l'audition, dans la vision, il n'y a que la vision. Mais évidemment, ceci, on ne peut pas le réfléchir. C'est rien de s'asseoir à dire, alors dans la vision, il n'y a que la vision, mais qu'est-ce que ça veut dire, voilà, comme ça, c'est pas possible. On peut seulement faire l'expérience, c'est un peu comme si vous mettiez devant cette pomme en vous disant, mais je me demande si elle est sucrée, mais elle doit être sucrée, mais non, je ne sais pas, vous tourneriez autour, hein. C'est pas possible, il faut en faire l'expérience. Donc c'est la méditation dans l'expérience elle-même. Tout d'abord, il y a cette élaboration de « je vois ceci », cette prise de conscience, et puis lentement, en ne nous accrochant pas à ce « je » et cette élaboration de ce qui est vu, lentement, cette intimité peut surgir par moment. Surtout s'il y a moins d'efforts, si on a moins à se battre pour être là, parce qu'on a l'impression que on est constamment en train de s'échapper, mais lorsqu'il y a un petit peu plus de tranquillité, à ce moment-là, on ne maintient pas, on ne nourrit plus ce sens du « je » et de conceptualiser ce qui est vu, et à ce moment-là, il peut y avoir cette unité dans l'expérience. Dans l'audition, toute expérience est bonne. Et je dirais que quelquefois les expériences moins prévisibles sont extrêmement riches. Si je reste avec les sensations corporelles, il se peut très bien que j'ai bien une image de la zone du corps, ensuite une notion de la sensation, etc. J'ai une construction à laquelle, d'une certaine manière, je m'attache presque. Et ceci crée un peu de difficulté. Mais si de tout d'un coup un son surgit, et surtout des craquements, des sons, on a de la peine à mettre une image. Si c'est un son, une voiture par exemple, immédiatement le concept voiture peut surgir, ou une image de voiture peut surgir, mais ces craquements par exemple, on ne sait pas qu'en faire, et pourtant l'expérience elle est là, il y a juste cette expérience de ce craquement qui a surgi, ou même des frottements, des gens qui bougent un peu, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc chaque expérience a ce potentiel pour nous d'être juste dans l'expérience. Aucune n'est meilleure et une moins bonne. On peut avoir plus de sensibilité, plus à être plus sensible à la musique, ou moins être attrapé par les expériences, ou plus dans la vision, ou plus dans la sensation corporelle, par exemple. Mais toutes ont la même possibilité de cette unité dans l'expérience. Alors cette intimité, cette proximité à l'expérience, cette intimité va nous permet de dépasser les notions de concept et du moi et de concept de l'objet, et à ce moment-là, c'est une connaissance intuitive, et c'est ce que Vipassana veut dire. Vipassana veut dire voir de manière pénétrante, ça veut dire quoi? Voir sans la médiation de concept. C'est ce que le terme Vipassana veut dire. Donc toute la méditation que nous pratiquons est en vue de cette connaissance intuitive, ou sagesse intuitive, si vous voulez, dans l'intimité de l'expérience même, qui ne met en jeu aucune croyance. Il n'y a pas besoin d'adhérer à la doctrine bouddhique pour avoir cette intuition-là. Elle ne dépend pas de fait de croire ou de ne pas croire, ça dépend simplement de cette disponibilité dans laquelle on veut bien se disposer. Donc qu'est-ce qui empêche cette intimité? Comme nous le voyons dans le son, c'est si je m'attache beaucoup à la notion de « je », si je fais un effort, parce que voilà, j'ai de la peine à entendre, ou pour une raison ou une autre, il y a beaucoup de bruit, et puis j'essaie d'être attentif à un bruit, il y a un effort, donc la notion du « je » est là, et puis si je conceptualise immédiatement le gong, mais quelquefois ça peut être juste une image jaunâtre qui suffit pour créer l'objet, ou le mot gong, ou le mot voiture, le mot oiseau, tous les mots portent, tous les mots qui surgissent. Dès que cette construction a surgi, à ce moment-là, elle s'oppose à cette intimité. Et à ce moment-là, on peut être conscient lorsque surgissent très rapidement ces notions, concepts. C'est pas Ah, c'est le gong, c'est presque immédiatement lorsque le gong surgit, ou lorsqu'on entend le bruit de la voiture, presque immédiatement. On peut avoir une vague image d'une voiture, où le mot voiture peut surgir. Donc ça vient très rapidement. Il ne s'agit pas de se battre contre, mais de ne pas y adhérer, de ne pas s'y attacher. Et à ce moment-là, donc s'il n'y a pas cette conceptualisation de l'expérience, on peut rester dans cette intimité. Pour revenir à l'exemple de l'eau, n'est-ce pas, et de l'âme qui s'y reflète, si on attache trop d'importance à l'arbre et qu'on le prend, le reflet de l'arbre, et qu'on le prend pour l'arbre lui-même, on peut bien imaginer quelquefois quand l'eau est calme, on pourrait prendre une photo et pas savoir si c'est dans le fond le ciel et l'arbre qu'on voit ou bien simplement le reflet. Mais si on s'attache à vouloir voir l'arbre, à ce moment-là, on ne peut pas percevoir l'eau. Il y a quelque chose qui nous échappe ici. Donc, dans l'expérience, avoir cette fluidité. Donc, ce n'est pas difficile à comprendre dans les perceptions sensorielles. De même, dans les sensations corporelles. Et comme on peut être dans l'audition que l'audition, on a bien l'impression que la conscience se révèle elle-même dans cette expérience de l'audition, à travers cet aspect qu'elle prend, qui est l'aspect de ce timbre particulier. De la même manière, dans la sensation corporelle, la sensation n'est pas un objet, la sensation est une expérience. Dans la sensation corporelle, il n'y a que la sensation corporelle qui se connaît elle-même, comme l'audition s'entend elle-même, pour utiliser un langage qui essaie de ne pas être trop dichotomisant. Donc, dans la sensation corporelle, il n'y a que la sensation corporelle. Et on peut très bien, lorsque on ne s'attache pas à l'image de la zone du corps, ni à une sorte d'image de la sensation, rester le plus proche possible, et on se rend compte tout d'un coup que c'est la présence qui est éprouvée dans la sensation corporelle. Mais évidemment, si on fait une sorte d'inventaire, c'est ceci ou cela, ou cette douleur, ou cette brûlure, à ce moment-là, on reste à distance. Donc là, je ne crois que ce n'est pas difficile à comprendre ici. Mais on peut se demander, mais dans la pensée, alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut être dans la pensée, dans ce même degré d'intimité? Est-ce que c'est la même chose? On a un petit problème parce que dans l'audition, c'était le concept qui, lui, empêchait cette intimité. Mais dans la pensée qui est elle-même un concept, eh bien, on ne voit pas bien comment on va pouvoir s'en tirer. Ou alors on élimine toutes les pensées. À ce moment-là, on est dans une sorte d'interférence avec une exigence immense qui serait l'exigence qu'il n'y ait pas de pensée. Comment, lorsque des pensées surgissent, ici, pensée, on va imaginer deux aspects, soit des images, images d'une personne, images d'un lieu, soit des pensées, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça va durer encore 10 minutes, est-ce que ça va durer encore 15 minutes, donc des pensées de ces deux types-là. Comment est-ce qu'il est possible d'être dans cette intimité? Puisqu'on a affaire au concept lui-même. Et ça m'a semblé pendant longtemps très intéressant, en me disant, mais je comprends très bien dans le son où est le problème, mais dans la pensée, je ne comprends pas. Quel est l'équivalent dans la pensée de l'image du son ou du mot voiture ou gong dans la pensée elle-même? Quel est cet équivalent qui empêche cette intimité? Donc on va aborder un peu la pensée d'une manière un peu graduelle, si vous voulez voir les différents aspects. Il y a une différence fondamentale entre la pensée ou l'image mentale et la perception. C'est que dans la perception, l'expérience est franche, elle apparaît pour ce qu'elle est. C'est-à-dire quand on entend un son, c'est bien un son qu'on entend. On ne se trompe pas. Quand on voit une personne, on voit bien la personne. Quand on voit la salle, c'est bien la salle qu'on voit. On ne se trompe pas. Dans la pensée ou l'image mentale, c'est très différent. Il n'y a pas du tout cette franchise. C'est ce qui fait la richesse de la pensée. La pensée, c'est cette immense richesse, c'est que justement, en l'absence d'eux, on peut représenter. En l'absence d'une personne, on peut la représenter. En l'absence d'un lieu, on peut le représenter. On peut représenter un temps révolu, on peut représenter un temps qui n'est pas encore là. Donc la pensée, elle a un mode d'apparaître, mais qui n'est pas son mode d'être. La pensée apparaît comme une personne, ce n'est pas une personne. La pensée apparaît comme un lieu particulier, ce n'est pas un lieu particulier. Donc voilà où la pensée est plus difficile, c'est qu'elle, son mode d'existence et son mode d'apparence sont différents. Donc, c'est pour ceci qu'il y a une plus grande confusion qui est amenée par la pensée, une plus grande difficulté d'être présent dans la pensée. Donc, tant qu'on croit que l'image d'une personne est la personne, à ce moment-là, on est évidemment dans la confusion. Il n'est pas possible d'être présent à ceci. Vous voyez, comme je disais, si l'eau et le reflet de l'arbre sont mélangés, on ne va pas croire que l'eau, eh bien, c'est l'arbre. Eh bien, si on croit que cette pensée ou cette image de cette personne est réellement la personne, alors à ce moment-là, on ne peut pas être dans cette intimité. La conscience n'est pas une autre personne. On est ici dans une grande confusion. Donc, le mode d'apparaître et d'être est différent dans la pensée. Et c'est ça, sa richesse. On pourrait dire que c'est sa raison d'être. C'est bien parce que on pourrait penser à la tour Eiffel, mais elle est trop grande pour entrer ici. Or, on peut y penser. Et cette pensée, quelle dimension elle a quand on pense à la tour Eiffel? Parce qu'elle est comme ça grande. Aussi grande que la tour Eiffel. Quelle est la dimension de l'image qu'on a de la tour Eiffel quand on imagine la tour Eiffel? Ça paraît bizarre comme question, mais enfin, bien l'impression, quand on y pense, qu'on a affaire à la tour Eiffel. Donc, la pensée n'est pas ce qu'elle se fait passer pour être. Et c'est sa richesse qui nous permet de planifier, d'organiser. Toute notre existence est basée sur la richesse de la pensée, qui est à utiliser de manière habile constamment. Mais si on essaie d'explorer autre chose, on essaie de découvrir quelle est la nature de la pensée. C'est un questionnement différent. Ça ne va pas nous enlever la possibilité d'utiliser judicieusement. Il s'agit d'ailleurs d'utiliser judicieusement dans beaucoup de situations, mais là, on voudrait bien découvrir un petit peu ce qu'elle est. Donc on sait déjà ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas ce qu'elle paraît être. Elle n'est pas les personnes qu'elle représente, elle n'est pas les objets, les lieux, les temps qu'elle représente. Donc nous avons tendance, si je reviens à la vision par exemple, pour qu'il y ait dans la vision que la vision, il est clair que dans cette expérience unitaire, il n'y a pas je, moi, qui vois la salle. Si on a cette dichotomie, à ce moment-là, il n'y a pas que la vision, il y a un je, il y a quelque chose qui est vu, c'est la salle. Quand on revient à l'intimité, il n'y a que l'expérience de voir. Il n'y a pas du tout cette dichotomie. Il n'y a que l'expérience de voir et qui est la conscience qui apparaît sous cet aspect-là. Il n'y a pas de séparation. Dans l'audition, c'est la même chose. Il n'y a que cette expérience de l'audition, il n'y a pas je qui entend ceci. Il y a juste cette expérience de l'audition et qui se situe, on pourrait dire, en nous, pour parler de manière très vague, parce qu'en fait, elle se situe, c'est juste la conscience, elle se situe nulle part parce qu'il n'y a rien par rapport à quoi elle pourrait être située. Mais on n'a pas ce je vois la salle, il y a juste la vision. Eh bien, dans la pensée, de la même manière, si on pense quelque chose et qu'on a l'impression qu'on a affaire à un objet, objet veut dire ce qui est jeté devant soi, si vous voulez, on est face à une pensée, je suis mes pensées, comme si je lisais les lignes d'un livre, par exemple. S'il y a cette tendance à avoir un penseur qui a des pensées, le penseur étant différent des pensées, à ce moment-là, on a solidifié ceci. Il n'est pas du tout possible d'être dans cette intimité. Donc, tant qu'on prend les pensées, les images mentales pour des objets, il n'est pas possible d'être dans cette intimité. Donc, un des premiers points, un des points importants, ça sera de reconnaître que la pensée n'est pas un objet. On peut dire que dans la méditation, évidemment, des pensées surgissent, et même pour beaucoup d'entre nous, assez fréquemment. Et il ne s'agit pas de les prendre pour un obstacle, comme si je ne peux pas méditer parce que j'ai des pensées, parce qu'il y a de nombreuses pensées. Donc je voudrais essayer de donner différents niveaux de pratique pour pouvoir aborder les pensées. Tout d'abord, un premier élément, c'est que quelquefois, on a l'impression que on est victime de nos habitudes. J'ai tellement de pensées. C'est pas ma faute, mais j'ai tellement de pensées. On se demande la faute de qui c'est d'ailleurs. Pourquoi il y a tellement de pensées? Et comme si c'était qu'une question d'habitude. J'ai pas appris à ne pas penser ou je ne sais pas quoi. J'ai tellement de pensées. Et, hein, sont bien quand les gens posent des questions. On reconnaît dans ma propre attitude. L'air de se plaindre, mais c'est quand même bête, j'ai tellement de pensées. Si seulement je pouvais en avoir moins, tout irait bien mieux. Mais à qui la faute? Alors, on aurait tendance assez rapidement à penser que c'est l'habitude. Enfin, l'habitude, elle a bon dos. Donc, je pense qu'il est aussi important de prendre la responsabilité de penser. Si on pense, c'est que ça nous arrange. Pour diverses raisons. Responsabilité, ici, ça ne veut pas dire être lié au moi, ça veut dire qu'il y a un choix. On a vu dans l'enchaînement de causalité qu'il y a un choix, et ce choix n'est pas nécessairement lié à un moi. Il y a un choix qui se passe, une intention. Mais responsabilité, si on se place en tant que victime, on ne peut rien faire. Dès qu'on se place en tant que victime dans notre méditation, à ce moment-là, on n'est plus responsable, c'est le bourreau qui va devoir nous sauver. On ne sait pas où il est, ce bourreau, mais c'est lui qui a la clé. Donc dès qu'on se place en tant que victime, quelle que soit l'expérience, on s'est enlevé la possibilité de sa propre liberté. Donc il va de même pour les pensées, si je me plains que j'ai trop de pensées. Donc il s'agit d'en prendre la responsabilité, non pas je, moi, mais qu'il y a un choix et que ça m'arrange bien de penser. Parce que la pensée, évidemment, hein, je viens de parler de sa richesse. Souvent, quand on pense, on ne ressent pas. Donc c'est aussi un moyen de ne pas ressentir. Je pense et je ne ressens pas ce qui se passe peut-être en moi. Donc c'est une manière d'éviter aussi. Mais donc, cette manière d'éviter a pu être essentielle, elle peut même être importante. Ça ne veut pas dire que on va s'interdire le fait d'éviter. S'il y a des choses profondes, intenses, des émotions, peut-être qu'on va les toucher à petite dose. Donc à ce moment-là, on utilisera la pensée comme moyen de dosage. À part se faire un modèle comme quoi il faudrait pas être dans l'évitement. Mais si on est dans l'évitement, au moins on voudrait en être conscient et en prendre la responsabilité. Il y a une chose qui me frappe immensément en méditation, quand on essaie de calmer l'esprit, c'est que il n'y a pas de raison que l'esprit soit agité sans raison. Ce qui veut dire que si on voulait calmer par une sorte d'effort, de concentration, l'esprit agité, on ne touche pas ce qui justifie cette agitation. Or, lorsqu'on prend conscience que l'esprit est agité, qu'il y a peut-être une sorte d'évitement, et lentement on va toucher cette source de l'agitation. Et c'est là, évidemment, que l'attention a besoin d'être, que la vie a besoin d'être. Donc à ce moment-là, on intègre l'agitation. On ne s'y oppose pas, on l'intègre, on lui donne l'espace pour être, ce qui fait qu'elle va se calmer. La solution de l'agitation est dans l'agitation, non pas dans le calme. Donc ceci, si jamais on a l'impression que très souvent on est dans la pensée, c'est rien d'espérer que ça va passer, mais simplement de essayer de prendre conscience pourquoi ça nous arrange. Dans le fond, qu'est-ce qui se passerait si je ne pensais pas? Et quelquefois on se rend bien compte, mais si je ne pensais pas, je ne suis pas sûr que ça m'arrange bien, parce que je sens qu'il y a quelque chose là que je ressens vaguement, je n'ai pas nécessairement envie de toucher. Alors prendre conscience peut-être que c'est ce qui motive la pensée, non pas pour s'opposer à la pensée, mais dans le fond à faire le lien entre les deux. Il y a c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de sentir et ces pensées qui surgissent. Je leur laisse le droit d'être aux deux, sans être dupe. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui peut changer, non pas être dans l'opposition volontariste, mais dans une plus grande sensibilité. Donc ça, c'est un aspect. Quelquefois, on peut prendre conscience des émotions qui sont liées aux pensées. Il y en a. Pour imaginer une situation toute simple, je me fais du souci pour rentrer samedi parce que j'ai pas de billet de train, donc je pourrais être là en train de me dire mais les horaires, comment c'est les horaires d'été, comment ça se passe, puis c'est quel jour, mais c'est les vacances, etc. Et tout d'un coup, voilà, je tourne en rond et puis je me rends compte qu'il y a un peu d'inquiétude. Et quand je touche cette inquiétude, je me rends compte que j'alimente plus les pensées. D'accord, je suis un peu inquiet, je peux m'ouvrir à cette inquiétude. Donc prendre aussi conscience de ceci. Maintenant, il y a un autre moyen aussi de ne pas être trop perdu par la croyance dans le contenu, c'est de reconnaître les pensées qui portent sur le passé. Ces pensées y ont trait au passé, ces pensées y ont trait au futur, l'anticipation. Et ces pensées-là ont trait à l'expérience présente, qui sont un commentaire, une manière de tourner autour, une manière de broder. Donc en reconnaissant déjà où se situe la pensée passée, future ou présente, on a déjà reconnu la pensée comme pensée. Et à ce moment-là, on est moins pris dedans. Donc ici, on est dans les manières d'aborder un peu la pensée pour enlever ce pouvoir de fascination qu'elle peut avoir. Il y a d'autres manières encore d'explorer la pensée. Un petit peu plus précisément, c'est de se rendre compte combien nous croyons ce que nous pensons. Et ça, c'est une chose extrêmement bizarre. On peut dire si je le pense, c'est que je le crois. Mais le point n'est pas là, c'est la réalité que nous donnons à ce que nous pensons. Je vais essayer de donner un exemple. Si je vais au réfectoire pour prendre la nourriture, et que je vois, j'imagine une salade que j'aime bien, et que j'ai cette pensée, c'est bon. Ben, j'ai l'impression que ce bon appartient à la salade, elle est bonne cette salade, c'est sa nature, et cette pensée, qu'elle a une valeur objective, qu'elle est là, c'est la réalité. Mais cette pensée, c'est bon, où est-ce qu'elle se trouve? Quelle est sa réalité? Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que on peut la voir, est-ce que les autres ont vu la pensée, que c'est bon? Ça va, si c'est bon, si c'est pas bon, c'est un peu moins bien. Mais où est-ce qu'elle se situe, cette pensée? Lorsqu'on commence à se questionner, à voir combien on croit à ce qu'on pense, la valeur tangible presque de la réalité qu'on donne à ce qu'on pense, on peut très bien rester avec ceci, explorer, c'est extrêmement libérateur. Libérateur. Parce qu'évidemment, c'est ce qui nous enferme, c'est ce qu'on pense. Pas tellement ce que les autres pensent, mais c'est ce qu'on pense qui nous enferme. Et de prendre conscience de la solidité qu'on donne à cette pensée, c'est extrêmement fascinant. Il s'agit de trouver un peu à nouveau le positionnement juste par rapport à cette pensée. Je donne un élément ici que je reprendrai par la suite, c'est que évidemment, une pensée, dans le fond, elle est très brève dans sa formulation. C'est bon ou c'est pas bon, n'importe quelle pensée, au moment où la formulation a cessé, ça dure quelques instants. Hein. Si on utilise un enregistreur, on se rend très, très vite compte qu'une phrase, dans le fond, est très courte. Mais pourtant, son impact est plus long, parce que si l'impact était simplement au moment de sa formulation, les pensées n'auraient aucun impact. Quelqu'un viendrait nous dire, je sais pas, les pires insultes, t'es un idiot, etc. Au moment où la phrase a cessé, il n'y aurait plus d'impact. Même si c'est positif, c'est la même chose d'ailleurs. Donc, il y a bien quelque chose qui reste au-delà de la formulation. Et c'est ça un peu que nous explorons. C'est le sens, dans le fond. Je vais revenir sur cet aspect-là. Je voudrais venir encore sur ces images mentales, les images qui peuvent surgir de personnes, de lieux, de places. À nouveau, pour questionner, si j'ai l'image d'une personne dans ma méditation, où est-ce qu'elle se trouve, cette image? Est-ce qu'elle se trouve un peu devant moi, ici, mais un peu sur la droite, sur la gauche, devant? À quelle distance? Et quelle grandeur? Quand je pense à une personne, quelle est la grandeur de la personne? Est-ce que c'est grandeur nature? La moitié? Plus petit? Quelle est la grandeur de l'image d'une personne qu'on a? C'est très étonnant. À quelle distance? Non, elle est trop près là, non, éloigne-toi un petit peu. Ça n'a pas de sens. Pour investiguer et comprendre ce qu'est une image mentale, ce qu'est une pensée, si vous voulez. Elle n'a pas de grandeur. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle n'a pas de grandeur parce qu'il n'y a rien par rapport à quoi elle pourrait avoir une grandeur. Elle n'est pas dans le monde des objets, même si je peux imaginer une personne ici, les yeux fermés, les yeux ouverts. Je ne vais pas dire elle est deux fois comme le coussin. On est dans un autre monde. Donc la pensée elle-même, ou cette image ici mentale, dans son unicité, dans la conscience, elle n'a pas d'autre chose à quoi on pourrait comparer la grandeur. Elle est la totalité de l'expérience à ce moment-là. Donc on ne peut pas dire ni elle est grande ni elle est petite. Elle n'a pas de dimension. Donc questionnez quand il y a des images mentales, et si certaines peuvent être assez persistantes, pour vous demander où elle est. Maintenant, cette tendance qu'on pourrait avoir à la voir devant, c'est comme si on la projette comme un objet. Mais l'image mentale, hein, elle est sa propre présence à soi. Elle n'a pas besoin d'être connue par un penseur. Il faudrait une image et puis il faudrait la voir comme on regarde un album de photos. C'est la conscience qui apparaît sous l'aspect de cette image-là. Et la conscience, elle se connaît. Donc l'image mentale se connaît elle-même. Elle est sa propre conscience, de même que la pensée est sa propre conscience. Il n'y a pas besoin d'une conscience pour prendre conscience d'une pensée. Pour revenir un peu à ces images, je vous donne quelques indications pour saper un peu la croyance en la réalité qu'on aurait. Mais lorsqu'on pense à une personne, on imagine une personne, on ne va jamais rien découvrir au sujet de cette personne, visuellement, qu'on n'aurait pas vu. Si j'imagine un ami que j'ai rencontré à Paris, je ne peux pas me dire quelle était la couleur de ses chaussettes. Ou bien je l'ai repéré quand j'étais à Paris, je vais m'en rappeler, mais si je ne l'ai pas vu, je ne peux pas amener l'image de cette personne. Ah, mais il avait des belles chaussettes, ou elle avait des belles chaussettes. Ce n'est pas possible. L'image ne nous apprendra jamais rien que ce qu'on y met, puisque c'est nous-mêmes qui amenons l'image. Donc on ne peut pas tourner autour. Il y a l'image de cette personne, tiens, quelle coupe de cheveux. Ah, mais je n'ai pas remarqué que derrière les cheveux étaient... Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Elle nous apporte rien, on ne peut rien découvrir que ce qu'on y met, puisque dans le fond, c'est nous-mêmes qui la créons. Il n'y a rien à découvrir. Il y a une intention, si vous voulez. Cette image, elle a un sens qui est le sens de... Elle vise cette personne. Mais l'image ne nous apprendra jamais rien qu'on ne sache déjà. On ne peut pas se tromper de personne. Ah, mais je croyais que c'était elle. Ah, mais c'est lui. C'est pas possible. Ou alors, c'est des cas que je ne connais pas, mais alors c'est... Mais on ne peut pas se tromper dans l'imaginaire quand on imagine une personne. On peut très bien, une personne peut nous faire penser à une autre, mais dans cet imaginaire, quand il y a cette personne, on ne peut pas se tromper. Pourquoi on ne peut pas se tromper? Parce que l'image, elle est sa propre conscience d'elle-même. Où serait l'espace pour l'erreur? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'intermédiaire qui pourrait induire en erreur. Voilà, je vais juste revenir un peu sur les pensées. Donc quand je me suis demandé, dans le fond, qu'est-ce qui jouait le rôle du concept dans l'audition, qu'est-ce qui était l'équivalent dans la pensée et qui rendait cette intimité difficile. Alors, d'une certaine manière, on a dans la pensée deux aspects. On a la formulation, qui est ce qui permet de la transmettre. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Je pense à ceci, cela. Donc, cette formulation est, si vous voulez, une sorte de dimension quasi objective. C'est le support, ce que je peux verbaliser. Qu'est-ce que tu pensais? Je pensais que c'est bien, je pensais que c'est une belle journée, je pensais que c'est une belle salle. Je peux la formuler et la transmettre, ce que je suis en train de faire. Donc, il y a la formulation, mais il y a le sens. Il y a ces deux aspects, parce que si une personne ici ne parlait pas le français, elle ne comprendrait rien. Donc il y a la formulation et il y a le sens. Et il y a ces deux aspects. Et lorsqu'on s'attache à la formulation, on ne peut pas être dans l'intimité avec la pensée. De même que lorsqu'on s'attache au concept du gong ou de l'image du gong. Donc dans l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je pense quelque chose, à nouveau je prends quelque chose de très simple, c'est bien ou c'est une belle journée, il y a cette formulation, on appelle ça image acoustique, hein, cette formulation que je peux transmettre, qui est l'emballage transmissible, mais il y a le sens. Et lorsque je ne m'attache pas à l'image acoustique, mais au sens, à ce moment-là, je peux être dans cette intimité, où dans la pensée il n'y a que la pensée, où dans l'intellection il n'y a que l'intellection, et je me rends compte que ce sens, la conscience de sens et le sens sont la même chose. Il n'y a pas un sens dont je devrais prendre conscience. La conscience, le sens est sa propre présence. Et c'est l'image acoustique qui m'empêchait d'avoir cette intimité. Donc, image acoustique et le sens, si vous voulez. Alors, explorez ceci. S'il y a une pensée, quand vous êtes en train de manger, par exemple, une pensée surgit, vous voyez bien qu'il y a la formulation. Et si vous essayez de déterminer le sens qui reste dans le fond, quel sens a cette pensée? Et de percevoir que cette pensée, ce sens, il est simplement la conscience qui surgit sous cet aspect du sens. Pas d'autre chose que cette intimité de la conscience qui apparaît sous cet aspect du sens, comme elle pouvait apparaître sous l'aspect de l'audition d'un son. Il n'y a pas le sens ici et la conscience là. La conscience paraît sous cet aspect du sens. Pour moi, ça me semble intéressant de faire cette distinction entre l'image acoustique, comme on l'appelle, et le sens. Parce que lorsqu'on traite la pensée au niveau du sens et non pas au niveau de l'image acoustique, il me semble que cette intimité est beaucoup plus simple et beaucoup plus parlante. Alors c'est une distinction qu'en linguistique est faite, entre le signifiant et le signifié. Et dans le fond, je me demandais dans la tradition bouddhique si on a l'équivalent. Et en fait, en relisant un texte l'autre jour, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais étudié il y a bien longtemps. Il est là, on a exactement cette distinction dans la tradition tibétaine de l'Abhidharma. On parle de Jashi et Dunshi qui veut dire le son générique et puis le sens. Donc on fait bien cette distinction qui peut apparaître mélangée, donc on a exactement cette même nuance qui est faite. Comment le concept est créé par au moyen de cette image acoustique, si vous voulez, ayant un sens, évidemment. Voilà, donc selon le degré de sensibilité, par moment, vous pouvez appliquer une méthode ou une autre, simplement reconnaître que les pensées ont trait au passé, celle-ci au futur, celle-ci elle raconte l'histoire au sujet du présent, pour ne pas être perdu, remarquer qu'elles ont peut-être une coloration émotive, si nécessaire, ou si c'est des images mentales de personnes ou d'autres lieux, de questionner avec une sorte de curiosité où elles se trouvent, quelle dimension. Elles se rendent compte que l'image, comme le sens, est la conscience d'elle-même, sa propre conscience, l'image mentale est sa propre conscience, elle n'est pas connue par autre chose. Elle n'a pas besoin d'être perçue, elle est conscience d'elle-même. Donc pour explorer un petit peu, et par moment, si vous sentez que vous êtes dans cette sensibilité, essayez de rester avec le sens, comme simplement la conscience se manifestant sous cet aspect du sens. Alors là, chaque pensée devient un support à la présence. Chaque pensée manifeste la présence ou l'intimité, comme le disait le premier sutra. Là. Quand dans la pensée, il n'y a que la pensée, où j'ai parlé d'intellection, il n'y a que l'intellection, à ce moment-là, tu ne seras ni ici ni là, et c'est la fin de la souffrance. Il y a cette possibilité de s'ouvrir à cette possibilité, à cette liberté, si vous voulez, dans cette expérience, dans la pensée, non pas ayant supprimé la pensée. Et ça, c'est très important. Autrement, on croit que c'est toujours l'ennemi public numéro un dans la méditation. Ça n'est pas, c'est juste une manière de danser un peu plus subtile, un rythme dont on a un peu moins l'habitude. Mais qu'il s'agit d'explorer aussi, autrement on est toujours dans cette attitude de croire que la pensée est en soi-même un obstacle à la méditation, ce qui n'est pas le cas. Même plus que ceci, lorsqu'on peut se rendre compte de ce qu'est une pensée, même à un niveau plus simple, comme je l'ai décrit ici, c'est immensément libérateur. Puisque c'est bien en croyant, en adhérant à ce que nous pensons, que nous nous enfermons, lorsqu'on voit qu'une pensée n'est qu'une pensée, c'est immensément libérateur. Dans la vie quotidienne, mais on peut s'enfermer quand on croit quelque chose au sujet d'une personne, d'une autre, etc. En voyant que ces pensées n'ont pas de réalité. Donc la pensée est extrêmement enrichissante à explorer. Donc si jamais elles surgissent, explorez-les. Mais si, par moment, il y a du calme, ou vous êtes dans les sensations corporelles, ce n'est pas nécessaire de l'explorer à ce moment-là, explorer ce qui se passe. Mais vous pouvez explorer à d'autres moments, pendant le repas, par exemple. Les pensées surgissent ou quand vous vous déplacez. Ces petits jugements qui peuvent apparaître sur les uns ou les autres, c'est extraordinaire. Une pensée qui surgit au sujet d'une personne, elle est où cette pensée? Quelle est sa réalité? Une personne passe, elle est sympa. Elle est où? Où est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Elle n'a aucune réalité. Quand on essaie, évidemment, d'explorer la nature de ceci. Voilà donc quelques réflexions sur l'intimité, ce que représente l'intimité, et aussi dans le cadre spécifique des pensées.